Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au plus grand footballeur de l'histoire, Pelé. Pelé est considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Il est l'unique footballeur à avoir été champion du monde à 3 reprises. En 1958 en Suède, 1962 au Chili et 1970 au Mexique. Son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento. Il est né à Tres Corcoes, dans l'état du Minas Gerais, au nord de Rio de Janeiro, le 23 octobre 1940. On est dans le Brésil agraire. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs Brésils et que la France pourrait contenir 17 fois dans cet état continent. À l'âge de 2 ans, sa famille quitte Tres Corcoes pour Bauru, dans l'état de Sao Paulo, où son père décroche un emploi de fonctionnaire et une place dans l'équipe de football de la ville. Enfant très actif, il accompagne son père, ancien cireur de chaussures, lors de ses entraînements de football. Ce serait lors d'un de ses entraînements qu'il aurait acquis le surnom de Pelé. Le petit Edison, qui n'avait que 3 ans, s'amusait avec le gardien du Vasco de Gama, le club de son père. C'est alors que son père remarque qu'il crie « Pilé » en essayant de prononcer le nom du gardien, un certain Bilé. Pilé deviendra Pelé. Pelé quitte sa famille en 1956 à l'âge de 15 ans pour s'installer à Santos, le port de Sao Paulo, et jouer au club du Santos Football Club en devenant professionnel. C'est un football du plaisir et de la joie de vivre qui lui est proposé. L'autre club de Sao Paulo est le club des plus défavorisés du Brésil. Le Corinthians. Cette équipe est particulièrement supportée par des banlieusards et gens du Nord-Est venus à Sao Paulo pour y trouver du travail. C'est ici que brilla le grand Socrates dans les années 1980. Ce joueur qui levait le poing à chacun de ses buts est un symbole de la lutte contre la dictature militaire. Sao Paulo est la capitale économique du Brésil. 11 millions d'habitants, deuxième plus grande ville d'Amérique latine derrière Mexico. Elle a été fondée par des jésuites portugais en 1554 et s'est développée grâce à l'or des mines. A connu ensuite la prospérité grâce à la culture du café et du sucre. Elle a connu aussi, tout au long du XIXe siècle et début du XXe, un afflux d'immigrants italiens, portugais, allemands, arabes et japonais. Une mondialisation avant l'heure. C'est la ville d'Ayrton Senna, le pilote d'automobile de F1 1960-1994, et de Neymar, le footballeur brésilien du Paris Saint-Germain. Pelé intègre en 1957 l'équipe nationale brésilienne. Âgé de 16 ans seulement, Pelé est appelé à jouer sa première Coupe du Monde en 1958 en Suède. Il est le plus jeune participant du tournoi. 1958 est la première victoire du Brésil en Coupe du Monde. L'objectif est d'effacer la défaite en finale en 1950 au stade du Maracanã, contre l'Uruguay, suite à l'erreur du gardien brésilien Barbosa, le gardien métis, un traumatisme. La défaite est un poison. L'équipe brésilienne est la seule équipe à présenter des Noirs. Son style de jeu est influencé par des racines africaines comme la samba, la capoeira, la bossa nova. C'est à la fois la lenteur et la rapidité. Un football rond, joyeux, fait de beaux gestes. On est loin de la fin du XIXe siècle où le football au Brésil est un sport de blanc, importé de l'Empire britannique via des clubs de régate à Rio de Janeiro et dont les Noirs et les Métis en sont totalement exclus. On ne peut pas comprendre ce football brésilien si on n'aborde pas le malandro, l'image du pauvre qui devient dribbleur social, quelqu'un qui, au lieu de contester l'ordre social, tente de le dribbler en utilisant de roublardise, l'efficacité dans la malice. Les qualités des petits sireurs de chaussures, avoir des yeux derrière la tête, jouer de l'astuce et de l'esquive. Pelé fait ses grands débuts dans la compétition aux côtés de Garrincha, considéré comme le meilleur joueur de la sélection brésilienne. En demi-finale, le Brésil bat la France de Copa, Piantoni, Jonquet, Just Fontaine, 5-2. En finale, il bat la Suède, 5-2, et Pelé en marque 2. À la Coupe du Monde de 1962 au Chili, Pelé se blesse très tôt. Il joue beaucoup avec son club de Santos. Il participe à beaucoup de matchs d'exhibition. Il ne prend part à aucun match dans le tournoi. Mais la sélection au Riverdé, menée par un Garrincha insaisissable et irréprochable, triomphe une seconde fois. En 1964, Pelé est pris, comme toute la société brésilienne, dans la tourmente du coup d'État du 31 mars 1964, coup d'État téléguidé par la CIA américaine et qui amène au pouvoir le maréchal Branco, soutenu par les grands propriétaires fonciers, la bourgeoisie industrielle de Sao Paulo, une grande partie des classes moyennes urbaines et la section conservatrice et anticommuniste de l'Église catholique. Le bolsonarisme est né sans doute ce jour-là. Mais Pelé est apolitique. À la Coupe du Monde de 1966, qui se déroule en Angleterre, Pelé a 25 ans. Mais les équipes bulgares et portugaises établissent des plans anti-Pelé. Le Portugal, ancienne puissance coloniale, illumine le Brésil 3-1 grâce à 3 buts de Zébio. La Coupe du Monde sera finalement gagnée par l'Angleterre, qui remportera son premier titre de champion du monde. En 1968, les militaires font un coup d'État dans le coup d'État de 1964, en instituant des lois d'exception et surtout la torture. En 1970, au Mexique, malgré la fatigue, un nombre de matchs annuels proche des 110 matchs et l'inscription en 1969 de son 1000e but, Pelé est rappelé avant la compétition par un nouvel entraîneur, Mario Zagallo, joueur comme lui de l'équipe brésilienne de 1958. Ce sont à ce jour les deux derniers survivants brésiliens de la finale de 1958. Mario Zagallo est un entraîneur rigoureux, mais prône un football de liberté. Il est nommé par João Havelange, président de la Fédération brésilienne de football, qui deviendra président de la FIFA en 1974. Parfait pour Pelé, dont on se souviendra de son lob de 50 mètres sur le Tchèque Victor, le grand pont sans toucher le ballon devant le gardien uruguayen Mazurkevich, la tête sauvée par l'arrêt du siècle du gardien anglais Gordon Banks. Pelé dira « J'ai marqué le but et Banks l'a effacé ». On se souviendra de la finale gagnée par le Brésil 4-1 face à l'Italie, avec son but de la tête et sa passe aveugle pour Carlos Alberto, le dernier but de la Coupe du Monde 1970, et le plus beau collectivement. Le capitaine brésilien avait marqué après 10 passes et 29 secondes. Ce match va donc faire l'histoire. En 6 matchs et 19 jours, 4 buts, 6 passes, 28 occasions créées dans cette Coupe du Monde 1970, Pelé est devenu ce jour-là le plus grand joueur de tous les temps. Le match ayant été vu en Mondovision. L'équipe brésilienne était composée des 11 joueurs suivants qui sont rentrés dans l'histoire. Félix, le gardien de but. Les défenseurs, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo. Les deux milieux de terrain, Clodoaldo, Gerson, le quatuor d'attaque. Gerson, Jairzinho, Rivelino et Pelé. Pelé joue son dernier match en sélection contre la Yougoslavie le 18 juillet 1971 au Maracanã. Plus de 140 000 personnes viennent voir jouer une dernière fois le roi Pelé sous le maillot de la Seleção, la sélection nationale, qui demande à son idole de rester, avec des fika, fika, qui veut dire reste, reste. Mais Pelé termine sa carrière au Cosmos de New York. Le Cosmos est la propriété de la Warner, une industrie du spectacle, et son objectif est de relancer le soccer. Le soccer, ou championnat américain de football, a du mal à prendre, face au basket, hockey ou autre baseball. Depuis sa retraite sportive, Pelé est l'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Il continue également de prêter son image à diverses entreprises et a occupé le poste de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998 dans le gouvernement Cardoso. Pour autant, il n'a pas quitté le monde du football, puisqu'il a été l'ambassadeur international de la Coupe du Monde 2014, qui s'est déroulée au Brésil, et qui a vu le Brésil se faire humilier par l'Allemagne en demi-finale, 7-1. Évoquer Pelé, c'est évoquer un certain style brésilien, mais aussi des joueurs mythiques qui l'ont précédé. Arthur Friedenreich est né le 18 juillet 1892 à Sao Paulo, est mort le 6 septembre 1969. Surnommé le Tigre, il est le premier des grands footballeurs brésiliens de l'histoire. Surtout, c'est l'un des premiers joueurs métis de football à jouer avec l'équipe du Brésil. Son père, Oscar, était un commerçant allemand arrivé au Brésil à la fin du XIXe siècle et sa mère, Mathilde, était une lavandière noire. Blessé, il n'a pas pu participer à la première Coupe du Monde de football en 1930 disputée en Uruguay. il aurait joué plus de 1200 matchs pour plus de 1200 buts marqués. On n'oubliera pas non plus, pour finir, Manuel Francisco dos Santos, dit Garrincha. Garrincha est né à Magé, dans l'état du Rio de Janeiro. Il est le cinquième enfant d'une famille pauvre d'origine amérindienne. Son père est alcoolique et Garrincha souffre de problèmes congénitaux. Sa colonne vertébrale est déformée et ses jambes sont arquées. À l'âge adulte, sa jambe droite est plus longue que la gauche de 6 cm. C'est durant sa jeunesse qu'il acquiert le surnom de Garrincha, du nom d'un petit oiseau local qui préfère mourir que de se laisser attraper, donné par sa sœur Rosa à cause de sa démarche, de sa vivacité et de son caractère. Il est aussi surnommé par ses proches Mané, à la fois diminutif de Manuel, mais signifiant aussi « fou » ou « simple d'esprit » en portugais brésilien. Il joue dans diverses équipes et tente des essais dans les grands clubs de la ville de Rio de Janeiro. Flamengo, le club des pauvres, Vasco de Gama, le club des portugais, Fluminense, le club de la bourgeoisie, mais n'est pas retenu à cause de sa malformation. Il est finalement repéré en 1953 par un autre club de Rio de Janeiro, le club de Botafogo, dit le club des artistes et des intellectuels. Lors des années suivant le sacre mondial du Brésil de 1958, Garrincha s'affirme comme l'arme fatale du Botafogo, l'un des meilleurs clubs du moment avec le Santos Football Club de Pelé. Sa réputation est immense et il participe à d'innombrables matchs de gala à travers le monde. Au poste d'ailier droit, Garrincha est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs brésiliens de tous les temps et pour certains le plus grand dribbleur de l'histoire du football. Il est vainqueur des deux éditions de la Coupe du Monde en 58 et 62. En 62, il est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Lorsque Garrincha et Pelé jouaient ensemble, le Brésil n'a jamais perdu un match. À son retour de la Coupe du Monde 1962, où il a particulièrement brillé, il s'affiche au bras de la célèbre chanteuse Elsa Soares, alors qu'il était déjà marié et père de nombreux enfants. La liaison fait scandale, mais dure au point que les deux se marient. Les clubs européens offrent une fortune aux dirigeants de Botafogo pour s'offrir le Brésilien, mais aucune offre n'aboutit. Il termine sa vie seul, retranché dans une petite demeure que lui prête l'État, divorcé plusieurs fois et refusant les quelques propositions d'aide qui lui parviennent. Il tente plusieurs fois de se suicider et se trouve interné près de 15 fois, de 1979 à 1983, en psychiatrie ou pour des cures de sevrage. Garrincha s'éteint le 20 janvier 1983, après avoir bu sans cesse pendant 4 jours des suites d'une cirrhose liée à son alcoolisme. Au-delà de ses qualités footballistiques, c'est sa personnalité et son tragique destin qui font de lui un joueur légendaire au Brésil. Sa popularité était telle qu'il était surnommé « Alegria do Povo », « joie du peuple ». Sa tombe est accompagnée de cette épitaphe « Sigil, la joie du peuple ». Mané Garrincha, la joie du peuple.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.